Donc nous sommes dans l'émission Tac à tendre, en lien avec le festival Tac à voir. Nous sommes donc des lycéens de Jean Massé en terminale L. Et cette émission aujourd'hui va être portée sur les migrants. Nous sommes avec Élise, Elsa, Morgane, Juliette et moi-même Lilith.
D'abord, je voudrais définir les termes migrants. Donc c'est un migrant, c'est une personne qui se déplace d'un pays à un autre. Ensuite, on a le terme de réfugié. Donc c'est quelqu'un qui fuit son pays pour cause de violence ou de persécution et qui demande la protection dans notre État et donc qui devient demandeur d'asile lorsqu'il attend la réponse de protection de l'État. Cette demande d'asile se fait lorsque tous les droits ont été bafoués. C'est un droit universel et inconditionnel et les pays ont interdiction de renvoyer des personnes dans un pays où ils risquent d'être persécutés. C'est le principe de non-refoulement.
Donc ensuite, on va vous parler surtout plus précisément des migrants isolés étrangers, donc des mineurs, sujet sur lequel nous avons fait, Juliette et moi, un reportage en début de semaine, que vous pouvez voir notamment d'ailleurs sur le site blog.tacavoir.fr. Tout d'abord, on va se demander pourquoi est-ce que les mineurs isolés étrangers choisissent la France et plus précisément Niort. Il faut savoir que la France protège énormément les mineurs, qu'ils soient migrants ou non, avec beaucoup de lois, c'est-à-dire que ils ne vont pas les renvoyer chez eux, contrairement à d'autres pays d'Europe. Et c'est ainsi du coup que les mineurs se retrouvent en France. De plus, pourquoi Niort? Parce que il faut savoir que Niort est assez réputée comme ville au niveau accueil administratif des mineurs. C'est assez bien géré.
À Niort, on compte plus de 100, d'une centaine de mineurs qui sont en fait, et ces mineurs en fait sont gérés par l'État. En fait, ils sont sous tutelle de l'État. Vu qu'ils n'ont pas de responsable légal, c'est l'État qui devient leur tuteur et qui prend et qui leur garantit donc un logis, à manger et une possibilité de scolarisation à partir de jusqu'à l'âge de 16 ans. L'école est obligatoire, donc ils ont pour obligation d'être scolarisés.
Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'État qui va aider ces migrants, mais aussi des personnes indépendantes ou via des associations. Il y a la CIMAD, par exemple. À Niort aussi, on a la cantine qui fait pas mal de choses en lien avec ces migrants. Ensuite, nous, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Rodolphe Sario, qui est éducateur sportif. Et il est coach footballistique. Et en fait, grâce à ça, il a rencontré plusieurs mineurs migrants il y en a certains qui viennent en France pour réaliser leur rêve de footballeur. Et donc c'est ainsi qu'il a rencontré un jeune homme que nous allons appeler S, pour garder l'anonymat, qui vient de Côte d'Ivoire et qui est donc venu ici pour réaliser son rêve joueur de foot.
Donc du coup, on a rencontré S dans l'hôtel où il vit pour l'instant. Il avait été avant 6 mois dans un foyer à Metz. Et donc voilà, il se retrouve à Niort depuis 6 mois, là maintenant. Et donc du coup, il a décidé... Enfin, lui, il a pris la décision de pas continuer l'école et de se lancer dans une formation dans l'hôtellerie.
S, lui, a décidé de plus suivre l'école, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres dans cet hôtel dans lequel il vit qui suivent l'école. Et donc, pour avoir un peu des informations sur la scolarisation des migrants, on a eu au téléphone Isabelle Grelot, qui est enseignante en premier degré, mais surtout qui s'occupe de placer en scolarisation les migrants. Et c'est comme ça qu'on a su aussi qu'il y a beaucoup de difficultés à ce que les migrants soient scolarisés, tout d'abord par manque de place, aussi parce que il y a très peu de classes spécialisées pour leur accueil, que les professeurs ne sont pas formés, par exemple, et de plus, on ne sait pas comment une année ou l'autre va se passer. On ne peut pas anticiper le nombre de migrants. On peut donc du coup énoncer quelques difficultés que les migrants vivent, par exemple le sureffectif dans les hôtels, c'est-à-dire qu'ils ne vivent qu'entre eux.
Oui, bah oui, ils sont, ils sont un peu isolés ils vivent qu'entre eux. Ils n'ont pas de contact forcément avec la population nortaise. Et par rapport à la scolarisation, il y a des problèmes aussi par rapport à, aux classes qui sont déjà surchargées, et c'est dur pour les enseignants aussi de prendre en charge ces gens qui parfois ne parlent pas forcément français, et du coup il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça.
Pour que les choses bougent, pour que ces difficultés soient réduites, pour que l'immigrant soit accueilli dans de meilleures conditions, il faudrait que les citoyens soient au courant. Enfin, en fait, on s'est demandé si les citoyens, si les Niortais étaient au courant de tout ça, et si est-ce qu'ils aidaient, est-ce que beaucoup faisaient partie des associations. Et c'est donc en allant faire vraiment un tour dans la ville et en interrogeant des gens au hasard qu'on a compris qu'en fait la plupart n'étaient vraiment pas au courant du nombre de migrants qu'il y avait sur Niort, notamment parce que d'après eux la presse ne diffuse pas assez d'informations là-dessus. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec le point de vue de la presse vu par Morgane, Elsa et Élise.
Donc nous, ce matin, nous sommes allés interviewer
le directeur général de la Nouvelle République.
Voilà, exactement. Pour savoir la démarche de la Nouvelle République par rapport aux migrants et comment ils faisaient passer les infos. Et comment ils réussissaient à avoir les infos. Donc, on va vous présenter l'interview qu'on a eue avec lui en enregistrement.
Le problème d'immigrants de Calais, de Grand-Synthe, c'est pas nous qui le traitons directement, mais vous avez vu dans le journal qu'on avait aussi appris qu'il y avait eu des migrants qui étaient venus s'installer à La Motte-Saint-Héret, à Côtières, dans le Thouarsais, mais ça, on l'a pas su tout de suite, parce que faut comprendre, pour des raisons qu'on ne comprend pas, mais qui sont réelles, qu'il y a eu une espèce de silence, de chape de plomb sur la répartition des migrants dans ce département. Comme on n'a pas d'informations officielles, on gratte un peu et on apprend que il y avait un projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'installation de migrants à l'AFPA, au centre de l'AFPA, ici à Champclairaud, derrière le lycée Paul Guérin. Le seul problème de l'AFPA, c'est que disait, ben, nous on peut les loger du lundi au vendredi, les nourrir, les accueillir pour les repas du lundi au vendredi, mais on n'a personne le week-end. Donc nous, on a fait, dès qu'on a su qu'il y en avait, il y a des maires qui ont accepté, c'est le cas de La Motte-Saint-Héret notamment, où on a été une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, pour voir un peu l'évolution de la situation de nos migrants. Tout ça parce qu'il y avait une relation locale, départementale, avec un événement national et même européen. On est revenu sur place à plusieurs reprises, notamment, je le répète, à la Motte-Saint-Héret, où on a dû aller 3 ou 4 fois. Mais quelque part, on n'est pas non plus des voyeurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être à l'affût en permanence de ce qu'ils vont faire. On est plutôt là pour voir un peu comment l'intégration se passe, comment les gens, nos lecteurs, qui vivent sur place, comment ces gens-là réagissent, s'ils acceptent cette présence, si leurs préjugés sont toujours là, s'ils n'ont plus de préjugés. Et on le fait de manière, je n'allais pas dire à dose homéopathique, mais on le fait de manière régulière. Alors on a fait un gros sujet il n'y a pas très très longtemps. On a essayé de recenser à l'échelle du département le nombre de jeunes mineurs isolés, et ça a été compliqué. On a finalement réussi à convaincre certains interlocuteurs que c'était peut-être bien d'en parler, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient et qui étaient plus ou moins vraies. C'était peut-être pas inutile de faire le point. Jeunes mineurs isolés ne veut pas dire forcément migrants, hein, on est bien d'accord. C'est des jeunes qui sont arrivés là, peut-être pas forcément de Calais ou qui partent pour des raisons ou pour d'autres raisons, mais qui sont pris en charge. Sur ce que l'on en sait, nous, à l'échelle des Deux-Sèvres, ils sont pris en charge par le conseil départemental. Je suis en train de chercher la structure, c'est l'ASE, hein, qui doit s'en occuper, et qui gère ces enfants en essayant de les scolariser, en les logeant, en les nourrissant. Ils sont pris en charge. Oui, on a déjà fait quelque chose là-dessus. C'était, je crois que c'est Emmanuel Tourlon qui avait dû faire ça il n'y a pas très 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 longtemps dans le journal.
Donc du coup, Morgane va nous faire l'analyse de cet article.
Alors donc c'est une interview de Gilbert Favreau, président du conseil départemental au sujet des mineurs sans papier, qui arrivent et qui se font connaître dans les Deux-Sèvres. Alors on se demande combien ils sont.
où ils logent, comment se nourrissent-ils, quel budget leur est consacré. Donc en 2013, ils étaient 20 mineurs isolés. En 2014, ils étaient 36, en 2015, 42 et en 2016, 121. Donc 90% disent être originaires d'Afrique de l'Ouest, donc tout ce qui est Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin, Burkina Faso. Et aucun d'entre eux ne viennent du camp de Calais, par contre. Et dans leur majorité, ils sont tout juste dans les moins de 16 ans. Alors le budget qui leur est consacré, c'est 9000 euros par jour au total, donc ça fait 65 euros par mineur et par jour. Donc ça représente 290 000 euros par mois en 2016. Le département leur a consacré 3 millions d'euros, hors frais de personnel, je parle. Ils ont aussi redéployé des équipes, ils ont mis des agents sur cette mission, donc elle compose des équipes de 5. Donc il y a des équivalents temps plein, deux éducateurs, deux accompagnateurs sociaux et un agent administratif, ce qui représente quand même pas mal de monde. Ils leur font passer à ces jeunes un bilan santé. Ils déposent pour eux une demande de CMU. Donc ces jeunes sont logés dans des logements, alors pour certains dans des logements autonomes, neuf chez des assistants familiaux. Trois dans des lieux de vie et d'accueil, deux dans une maison d'enfance à caractère social, 19 en résidence habitat jeune et 98 dans des hôtels. Donc il y a 5 types d'hôtels qui acceptent ces mineurs, donc 3 à Niort, 1 à Saint-Rémy et 1 à Saint-Mexin. Et pour 2017, ils envisagent d'augmenter le nombre de placements de résidence habitat jeune. Et donc pour se nourrir, ils reçoivent une somme forfaitaire.
Donc suite à ce point de vue de la presse et au point de vue des migrants énoncés plus tôt, on peut peut-être essayer de débattre là-dessus, de voir un peu comment nous, lycéens, on voit ça. Par exemple, est-ce que vous aviez conscience de tous ces migrants mineurs sur Niort avant ?
Moi, avant d'étudier les chiffres, je pensais pas qu'ils étaient répartis comme ça et qu'ils étaient surtout autant. Enfin, quand on croise des gens dans la rue, il n'y a pas marqué migrant ou habitant de Niort. Enfin, on peut pas savoir et c'est vrai que je pensais pas qu'ils étaient autant. Voilà.
Moi, j'étais au courant qu'il y avait des migrants sur Niort. Après, je savais pas où et je savais pas comment ils étaient accueillis et gérés du coup.
Moi non plus, mais je savais qu'ils étaient dans un hôtel, mais sinon c'est tout. Ouais.
Vous avez quel point de vue sur le fait que on les laisse dans des hôtels entre eux, qui n'est pas vraiment le droit de sortir et de pouvoir essayer de rencontrer des Niortais, quoi.
Moi, je trouve pas ça top, dans le sens où c'est en se baladant qu'on rencontre des gens, qu'on apprend la langue. C'est vrai que c'est comme ça qu'on se familiarise avec un peu son milieu. Si on reste entre nous, en fait, on découvre rien et ils sont là pour aussi s'adapter à la vie niortaise et à la vie française en général, ou même dans n'importe quel pays qu'ils soient. Et c'est vrai que s'ils restent entre eux, bah, ils ont pas la chance de découvrir d'autres horizons, entre guillemets.
Ouais, et puis surtout, quand on a rencontré S, il nous disait par exemple que lui, il avait des jours de sortie, mais quand il était sur Niort, il connaissait pas Niort, en fait, du coup, ils arrivent en ville, ils connaissent rien, et il y a personne pour leur montrer toutes les possibilités, tout ce qui est possible à Niort, les bibliothèques ou les... Il y a le théâtre, ou je sais pas, il y a plein de choses possibles, quoi, et personne après les prend en charge après pour qu'ils s'adaptent un peu, pour qu'ils arrivent à s'intégrer, en fait, à part ceux qui sont, par exemple,
Rodolphe, Sario.
Ouais, voilà, c'est ça, ceux qui ont des activités loisirs, mais autrement, sinon.
Et c'est même ce que S nous a expliqué, lui, quand il allait en ville, on lui a demandé s'il rejoignait des gens, des jeunes, il nous a dit, que oui, en fait, les personnes qui rejoignaient, c'était ceux qui avaient été changés d'hôtel, par exemple. Donc en fait, quand ils vont en ville, ils vont rencontrer d'autres migrants. Ils ne rencontrent pas vraiment pas du tout de jeunes, d'autres jeunes.
Ouais, du coup, le boulot est à peu près fait à moitié, parce que on essaye de les prendre en charge, mais en fin de compte, on les isole, donc c'est bête.
C'était en ayant une discussion avec Rodolphe Sario, du coup, donc l'éducateur sportif, qu'on a appris qu'en fait, qu'ils allaient essayer d'être déplacés vers des hôtels extramuros, parce que pour l'instant, ils étaient vraiment que dans des hôtels intramuros. Du coup, on se demandait La question, c'était est-ce que c'est vraiment pour les protéger eux ou peut-être nous protéger nous deux. Et du coup, c'était quand même bizarre d'essayer de les éloigner de nous. Alors que justement, le mieux, ce serait d'essayer de vraiment les intégrer à la ville et aux jeunes. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir avec le point de vue des Niortais, en écoutant des extraits de rencontres qu'on a eues avec des Niortais ce matin. Ce que je propose, c'est qu'on débatte entre chaque écoute, histoire de savoir un petit peu si nous, on pense pareil ou pas.
Il faut s'occuper pour moi avant tout de misère française plutôt que s'occuper de misère à l'étranger.
Mais il faut pas faire de différence entre les gens pauvres français qui sont nés en France et les gens pauvres qui viennent d'ailleurs. Faut les traiter tous pareil en fait.
C'est quoi vous votre point de vue là-dessus ?
Donc moi je suis plutôt du deuxième avis, que on doit traiter les pauvres d'ailleurs et les pauvres d'ici de la même manière, parce que après tout on est tous humains, on fait partie du même monde, et qu'on habite dans un pays ou dans un autre, on est tous les mêmes. Donc ouais, je pense qu'on doit traiter tout le monde de la même manière et pas privilégier l'un par rapport à l'autre.
Bah ouais, enfin peut-être que si, enfin je trouve ça un peu facile parfois de dire ouais, il faut d'abord s'occuper nous des Français et tout, regarder les sans-abri et tout qui sont dans la rue, et peut-être que eux aussi on pourrait les aider, mais enfin ces gens-là ils passent devant eux et enfin jettent même pas un regard quoi, donc enfin, est-ce que c'est vraiment légitime de dire ça?
C'est hypocrite.
J'ai l'impression qu'ils sont enfermés, en fait. C'est comme s'ils étaient dans des camps, quoi. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, en fait.
Donc, ce point de vue, il est ressorti aussi pendant l'interview avec Rodolphe Sarrio. Lui aussi, il est... pour lui, c'était vraiment un peu comme des camps. Ce fait d'avoir des jours de sortie, d'être vraiment qu'entre eux dans les hôtels, de pas vraiment rencontrer de monde.
Ouais, d'essayer de les isoler un peu. Ouais. Enfin, c'est...
Moi, je trouve qu'on les voit un peu trop comme des, ouais, comme des étrangers plutôt que comme des humains. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ce sont des étrangers que forcément on doit nous protéger. Enfin, pourquoi donner des jours de permission à des hommes alors qu'ils sont censés être libres, ils sont censés faire ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, ils sont quand même à un âge où ils ont peut-être envie de sortir le soir avec des amis. Et ouais, enfin, je trouve ça quand même un peu désolant.
Moi, je prends en compte aussi l'aspect des tuteurs. Enfin, genre, ils sont quand même sous la responsabilité de l'État, et enfin, on a quand même besoin d'une certaine, peut-être ces structures. Enfin, on peut le voir aussi dans ce sens-là. Enfin, que effectivement, oui, on pourrait. Enfin, il y a certains parents, par exemple, qui laissent leurs enfants sortir tous les jours, et c'est d'autres qui leur disent non, mais voilà, maintenant, on avait dit qu'on sortait ce jour-là jusqu'à telle heure. Enfin, voilà aussi, je pense qu'aussi on peut le voir de cet ordre-là aussi.
Moi, je pense que le souci là-dedans, surtout, c'est qu'on pense pas assez loin dans l'intégration des migrants. On pense surtout à leur arrivée, c'est-à-dire on leur offre un hôtel, de la nourriture, un lieu où ils vont pouvoir se poser pendant quelques semaines, reprendre leurs esprits, essayer de s'acclimater peut-être un petit peu, parce que c'est même pas, ils peuvent pas totalement s'acclimater vu qu'ils ne sortent pas en ville, vu qu'ils ne rencontrent même pas vraiment le pays dans lequel ils sont. Mais je pense qu'on pense pas assez au fait qu'ils vont sûrement rester, quoi, et que il faut au bout d'un moment les intégrer. Pour l'instant, on les voit vraiment juste comme des migrants qui quittent leur pays parce qu'il y a un problème, ou voilà, mais pas comme des personnes qui vont rester dans notre pays. Il y a trop l'étiquette migrant, en fait, sur leur tête.
Moi, je voulais revenir sur ce que Morgane vient de dire. D'où vient, ouais, pourquoi ils sont pas intégrés comme ça. Et moi, je pense que d'un côté, les gens... en fait, quand ils voient étrangers, quand ils pensent étrangers, ils ont peur, en fait. Je pense qu'ils ont peur. Genre, du coup, je pense que l'État aussi a peur. Je pense qu'avec ce qui est arrivé, les attentats, tout ça, tout le monde a peur. Et on dit étranger, on pense attentat. Et pour moi, enfin, c'est pas normal, bien sûr. Je pense pas que c'est normal, mais je pense qu'il y a cette peur qui bloque, en fait.
C'est plus les États qui doivent... prendre des décisions. Bien sûr, le problème, c'est que les gens qui veulent vraiment les aider, ils n'ont pas forcément le droit.
Mais par rapport à ça, moi j'ai trouvé j'ai fait des recherches sur ça, enfin sur le fait qu'ils n'avaient pas forcément le droit, et j'ai trouvé un cas dans les Alpes-Maritimes à Roya, où des citoyens en fait ont été arrêtés et mis. Oui, parfois, par exemple, je prends l'exemple de Cédric Héroux. qu'un agriculteur. Et en fait, comme il se situe à la frontière avec l'Italie, il y a parfois des... Enfin, il y a presque tout le temps des gens qui viennent pour venir en France, en fait. Et lui, au lieu de les laisser dormir dans une tente, il a décidé de monter un abri pour... Enfin, pour qu'ils puissent se loger, pour avoir... Enfin, voilà, quoi, des conditions de vie normales. Et... Enfin, selon la loi, ça serait faciliter ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation, les séjours irréguliers d'un étranger en France. Et enfin, il a eu jusqu'à 8 mois de prison avec sursis. Donc, est-ce que c'est normal en fait de vouloir juste aider des gens et les, enfin, alors que c'est dans leur droit en fait de venir ici, de fuir leur pays.
Vas-y, Elise.
Surtout que la France est un pays d'accueil et que nos frontières sont ouvertes, donc du coup, ils devraient avoir le droit de rentrer, quoi.
Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est que les gens comme ça, indépendants, qui aident et qui prennent des décisions, la France, elle devrait plus en être fière, en soi, qu'il y ait que justement la notion de fraternité soit encore présente en France. Et puis surtout, l'État, c'est sûr, il peut pas aider tout le monde, il pourra pas gérer tous les problèmes, mais s'il est aidé par des gens comme ça, ou des associations qui, sans forcément demander de l'aide à l'État, Cédric Héroux, c'est lui qui a choisi de faire ce bâtiment avec ses moyens, quoi. Il a rien demandé à l'État. Bah, peut-être que si l'État soutenait un petit peu ces personnes, bah, ce serait plus facile d'aider les migrants et il y aurait moins de conflits, moins de problèmes même pour eux, voire plus de solutions même pour accueillir.
Tout pays, je pense, doit aider un être humain en difficulté. On doit tous être concernés.
On ne peut pas ignorer cette situation. Et ça pourrait être nous demain aussi.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Bah, on l'a vu, par exemple, quand il y a eu des attentats en France. Les réseaux sociaux, c'était... Waouh, je suis Charlie, priez pour Paris, etc. Alors que, bon, bah, en Afrique, il y en a hyper régulièrement, quoi, des attentats. C'est limite leur quotidien. Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça bizarre que parce qu'on est un pays européen, on fasse plus attention à nous, alors qu'en soi, bah, on devrait faire attention autant à tout le monde, quoi.
Je trouve que on a tendance à un peu trop se regarder le nombril, enfin, façon de dire, quoi. On a un peu trop tendance à, parce que c'est un pays européen, parce que c'est un pays riche, on met du bleu blanc rouge sur tous les monuments du monde, voilà, sauf que on voit jamais apparaître les pays, la Syrie, est-ce qu'on a vu apparaître tout ça sur nos monuments? Bah absolument pas. Je trouve que voilà, on est conscient, mais on est conscient sans vouloir trop l'être.
Bah, dans tous les cas, ce qui ressort, c'est que si on veut pouvoir aider ces migrants, effectivement, c'est qu'il va falloir moins d'individualisme dans notre société et même dans notre monde, et vraiment du collectif et penser ensemble, être solidaire entre nous tous, que on soit tous mis sur le même pied d'égalité, qu'importe le pays dans lequel on est, qu'importe nos origines, quoi, qu'on puisse tous être aidés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Élise, Elsa, Morgane et Juliette d'avoir été présentes. Au revoir et à demain.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.